Une vie, une œuvre, Goliarda Sapienza, 1924, Sicile, 1996, Italie. Goliarda Sapienza grandit à Catane, en pleine montée du fascisme. Elle a de nombreux demi-frères et sœurs. Son père, Giuseppe, est avocat. Sa mère, Maria, directrice du Grido del Popolo, le cri du peuple. Ils sont tous deux ouvertement socialistes, anarchistes. Soustraite à l'école, elle se rallie très tôt à l'esprit de contestation familiale. Après une période de résistance pendant la guerre, elle entre à 16 ans à l'Académie nationale d'art dramatique de Rome, mais elle quitte prématurément le théâtre pour se consacrer à l'écriture. Après quelques crises existentielles, Goliarda compose, en un peu moins de 10 ans, L'art de la joie, long roman d'initiation à la liberté de l'esprit et du corps. Sa vie colorée et ambivalente devient son sujet principal. Dans les années 80, elle fait volontairement de la prison pour vol. L'expérience ne fait que renforcer l'engagement féministe qui guide toute sa vie. Julie et Jean-Philippe Navarre signent « Une vie, une œuvre, Goliarda Sapienza ».
Certitude du doute, beauté des contradictions, voilà. Écoutez son nom. Goliarda Sapienza, c'est quand même le nom le plus génial que j'ai jamais entendu, parce que Sapienza, la sapience, c'est la sagesse, et Goliarda, les Goliards, au Moyen-Âge, c'était les jeunes étudiants de la Sorbonne hérétiques qui se moquaient des religions et tout ça. Et donc son nom, quand même, c'est la sagesse de l'hérétisme.
Tu définis
Goliarda elle-même se définissait comme une religieuse marxiste défroquée.
Toute son œuvre, c'est une forme de sagesse de la pensée hors courant, de la liberté.
Non è tanto semplice, io poi sono fortemente compromesso.
Je suis très compromis, c'est difficile.
Però qualcosa posso dire. Era una persona molto, molto.
C'était quelqu'un de très sympathique,
empathique
et qui donnait de l'émotion.
Et con qualche elemento magico,
avec un certain élément magique, si l'on peut dire.
Perché sapeva fare
parce qu'elle savait faire des petits miracles
laïcs. Ma soprattutto era
elle était merveilleuse dans le rapport humain direct.
Le amava la gente.
Et elle aimait les gens.
C'est vraiment quelqu'un voilà, qu'on garde dans sa tête comme auteur, mais aussi comme ami. Plusieurs personnes qui l'ont lu ont ressenti la même chose, aussi bien des hommes que des femmes. En fait, on apprend avec elle, on apprend beaucoup.
Elle comprenait les pulsions profondes, émotionnelles. Et elle savait trouver en chaque personne quelque chose de bon. Et elle disait d'ailleurs que même dans le pire criminel, il y a quelque chose de bon, quelque part.
Même en prison, elle était libre aussi.
Le mot qui me vient à l'esprit, c'est insoumission. C'est également un personnage très contradictoire, qui a eu à se débattre avec des aspects très différents. Donc il y a aussi la fragilité, ce qui a fait la difficulté de son existence et la beauté de son existence aussi.
Goliarda Sapienza, la Madone indocile. Un documentaire de Julie et Jean-Philippe Navarre.
Personne ne peut garder le silence sur soi-même toute sa vie, sous peine
de folie.
La vie est toujours un roman non écrit si elle reste ensevelie en nous et je crois dans la littérature.
Seul ce qui est écrit reste et avec le temps.
Et avec le temps devient vie, la seule vie lisible, bien que ce soit à partir d'innombrables points de vue,
et même si ça peut paraître un paradoxe, la seule véritable dans l'absolu.
Donne-toi au métier de raconter. Ne te laisse pas effrayer par la misère qui poursuit toujours celui qui s'apprête à entreprendre ce métier. Et ne t'attriste pas. Mon grand bonheur, à chaque fois que je publie un livre de Sapienza, c'est de choisir la phrase qui sera en quatrième de couverture. Et on met rien d'autre. Et donc sur celui-là, c'était un extrait de Rendez-vous à Positano. On avait mis « Toutes les choses les plus belles contiennent une douleur secrète ». La force autobiographique de la vie de Sapienza se retrouve dans tous ses livres, parce qu'elle a été tellement étonnante dans son parcours que tous ses textes du théâtre, de la poésie, du roman, du récit, c'est que des tentatives d'exploration et d'élucidation de ce qu'elle a vécu.
Frédéric Martin, vous êtes le directeur des éditions Le Tripode. Est-ce que, avant de
parler peut-être un peu plus du travail d'édition autour de l'œuvre de Goliarda Sapienza. Vous pourriez retracer le contexte de son enfance qu'on retrouve dans ses premières œuvres autobiographiques et puis dans Moi, Jean Gabin.
Il faut dire que son histoire, elle est quand même assez carabinée puisqu'elle est née à la jonction de deux personnages déjà assez invraisemblables. Donc la mère, Maria Giudice, était une très grande figure du socialisme italien, secrétaire de Gramsci, ami de Mussolini quand il était encore d'extrême gauche, en compagnonnage, je ne dis pas en couple, parce qu'il n'était pas marié, avec un anarchiste qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. On lui en fait auparavant 7 enfants quand même. Donc vous avez lié une figure de femme libre assez étonnante et qui est missionnée par le parti au début des années 20 pour aller en Sicile répandre la bonne parole. Donc vous avez cette femme célibataire qui débarque avec toute sa marmaille et qui va pour parler de collectivisation des terres, de salaire minimum. Donc autant dire que très vite, et la mafia et les fascistes veulent sa peau. D'autant plus qu'elle se met en couple avec le père de Sapienza, celui qui allait devenir le père. Il est veuf, il a 3 enfants, Giuseppe Sapienza. Il est moins, à mon avis, intellectuellement engagé que Maria, mais il est une sorte de Robin des Bois, c'est un avocat. Et il défend essentiellement les humbles de Catane. Il s'engage quand même dans les idées de Maria, donc il fonde un journal dont les locaux, bien sûr, vont être incendiés plusieurs fois. Ils vont subir plusieurs tentatives d'assassinat. Ils vont être parfois assignés à résidence, parfois mis en prison. Et avec tout ça, ils arrivent quand même à élever leurs 10 enfants. Et ils trouvent encore le temps de faire 3 enfants. 2 vont mourir en bas âge. L'un s'appelait Goliardo, l'autre s'appelait Goliarda. Et la troisième, c'est la Goliarda qu'on connaît.
Goliarda est née en 1924. Sa mère, je crois, on lui disait, c'est terrible de naître en 1924. Elle a toujours dit, mais comment vais-je me sortir d'affaire en étant née en 1924? Parce que c'était le fascisme qui triomphait. Elle ironise sur son nom, sur son prénom, et elle n'ironise pas sur sa date de naissance. Nathalie Castagnier, j'ai... Une grande partie de ma vie se passe à traduire l'œuvre de Goliarda Sapienza. J'ai, bien avant de traduire d'ailleurs, écrit et j'ai fait du chant. Finalement, ça nous rapproche un peu, puisqu'elle a été comédienne pour commencer.
Angelo Pellegrino, vous êtes écrivain, traducteur, et vous avez été le compagnon de Goliarda Sapienza les 20 dernières années de sa vie. Lorsqu'elle parle de son prénom, dans ses écrits, Goliarda évoque souvent Goliardo, ce demi-frère assassiné en 1921 par des fascistes ou des mafieux qu'elle n'a donc pas connu, mais dont la présence semble s'être fortement inscrite en elle.
In Italia è l'unico questo nome al femminile, mentre al maschile Goliardo ve ne sono.
Goliarda ne se donne absolument pas en Italie. Goliardo parfois, mais Goliarda c'est unique.
Goliarda ha sempre portato su di sé.
Goliarda ha porté le poids de ce nom et de ce frère mort.
Goliarda era siciliana, credeva molto nei morti, nel culto dei morti.
Goliarda était sicilienne, donc elle avait une sorte de culte des morts. Les morts étaient là, étaient restés présents. Et ils étaient toujours vivants d'une certaine manière. Mais il fallait encore, fallait-il rendre compte littérairement de ce qu'ils étaient, et dans une vérité non seulement personnelle, mais historique.
C'était donc la seule enfant du couple au milieu de tous ses demi-frères et demi-sœurs. Elle a été retirée de l'école très jeune, puisque ses parents considéraient que l'école était à cette époque le véhicule du fascisme. Ses parents sont des intellectuels, mais ils vivent dans un quartier très populaire de Catane. Et je me suis demandé comment toutes ces différences ont pu la marquer. Est-ce qu'elle vivait avec un certain sentiment d'isolement?
Beaucoup de questions. Ça crée beaucoup de questions déjà.
L'episodio che ha provocato il completo abbandono della scuola è stato quando
l'aneddoto che ha fatto che Goliarda è stato enlevé de l'école, c'est que bon le professeur parlait de l'histoire romaine et de César, Pompée et Crassus, et là Goliarda se lève en disant mais ils étaient fascistes, ils étaient épouvantables, les Romains, ils ont crucifié Spartacus. Et évidemment, elle s'est fait mettre dehors de l'école, et son père, apprenant ça, a dit bon, c'est fini, je t'enlève de l'école, c'est une école fasciste. Il a pris son uniforme de jeune fasciste qu'elle était obligée obligés de porter pour aller à l'école, il l'a brûlée sur la terrasse de leur maison. Et Goliarda n'est plus retournée à l'école. Mais en même temps, c'est contradictoire d'une certaine manière parce qu'elle aimait beaucoup aller à l'école. Donc ce sont des choses difficiles. Mais ses parents étaient persécutés, ils étaient poursuivis, ils étaient menacés par la police, par les services secrets. C'était quand même des conditions très particulières.
J'ai l'impression d'avoir chez moi toujours uniquement écouté. Je ne me souviens pas d'avoir ouvert la bouche, sinon pour pleurer, crier et chanter, quand ils me le demandaient pour que je les divertisse. Ils me mettaient au milieu de la pièce du piano. Arminio jouait, et je devais danser, chanter, ou faire une imitation de la chanteuse de variété que nous avions vue le soir précédent. Ils m'emmenaient toujours au théâtre, au cinéma, et aussi à l'opéra, eux. Mon père au théâtre de marionnettes. Il m'emmenait toujours, si bien que je ne me souviens pas de la première fois où ça a eu lieu.
Lettre ouverte, Goliarda Sapienza.
Ma era poi libera nei vicoli per le strade.
À côté de ça, Goliarda était extrêmement libre dans ce quartier populaire, très haut en couleur, très vivant, où elle habitait, et elle apprenait plein de métiers, rempaillait les chaises, raccommodait les vêtements des marionnettes qui étaient déchirées après les combats des spectacles de marionnettes. Voilà, il y avait de tout, il y avait des prostituées dans ce quartier, des transsexuels, à côté des artisans. Elle apprenait des métiers divers, qui était aussi considérée comme une formation par les socialistes à l'époque. Ça faisait partie, à côté de la formation intellectuelle, apprendre des métiers manuels était une chose qui était considérée comme une seconde formation importante.
On sent une forte domination de ces adultes qu'elle jugeait très brillants, qui l'entouraient.
Une domination, il faut mettre un bémol à ça, parce que quand même, sa mère disait sans cesse, Goliarda, si tu n'es pas d'accord, tu le dis. Elle disait elle-même d'une certaine façon, nous sommes trop écrasants par rapport à une enfant, il faut que cet enfant sache dire non. Et il y a quand même des choses stupéfiantes qu'on apprend dans Lettre ouverte. Cette famille athée, quand Goliarda est émerveillée par la figure du Christ et veut s'habiller en nonne, ses sœurs s'empressent de lui faire un vêtement de nonne. Ça dure pas très longtemps. Mais au lieu de lui dire « Ah non, absolument pas, tu ne t'intéresses pas à ça, c'est épouvantable », on la laisse aller. Donc il y avait un mélange quand même de grande liberté et en effet de domination et presque involontaire, parce que c'était de grandes figures, et notamment sa mère.
Sa mère qui est quand même son amour impossible.
D'une certaine manière, oui, et probablement le premier de ses amours féminins ou féminines impossibles. Elle a eu une éducation complètement ambivalente, Goliarda. On l'a quand même éduquée aussi comme un garçon. Et elle dit du reste que si elle n'a jamais pu avoir d'enfant, pour son plus grand malheur, c'était pour ça. D'une certaine manière, sa féminité n'a pas pu s'épanouir complètement. Ce que je trouve très intéressant chez Goliarda, et qui apparaît très souvent, c'est qu'en effet, sur les femmes, elle peut avoir un regard d'homme.
D'ailleurs, elle imite Jean Gabin, c'est son modèle, c'est à lui qu'elle veut ressembler.
Cette très jeune adolescente sicilienne qui s'identifie à Jean Gabin, au point, en effet, d'essayer de reproduire sa démarche et son comportement d'ailleurs, mais c'est vraiment merveilleux.
Voilà la femme que Jean n'aurait pas pu ne pas aimer s'il l'avait rencontrée. Mais pour moi, c'est différent, c'est ma mère. Et refermant les bras sur ma poitrine, pour ne pas faire de gestes imprudents, je serre contre moi cet amour que je ne peux extérioriser. Et je souffre d'abondance, comme tous les hommes dignes de ce nom souffrent pour un amour qu'il aurait refusé. C'est-à-dire profondément, éperdument, mais en silence.
Et donc elle va être plus ou moins élevée par ses demi-frères, notamment un qui va beaucoup s'occuper d'elle, qui va lui donner son éducation intellectuelle. Donc très tôt elle découvre la littérature russe, les idées socialistes. Et elle est chauffée à blanc quand arrive la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, elle fait évidemment de la résistance. Donc elle est dans un tourbillon qui est le produit naturel de tout ce qu'on lui a donné dès son plus jeune âge.
I fratelli l'avevano insegnato a sparare, a tirare di boxe, ed era pronta per la rivoluzione.
ses frères l'avaient préparé à combattre, à tirer, à faire de la boxe. Et finalement, elle était prête pour la révolution, qui n'est pas advenue. Le fascisme est tombé. Et Goliarda disait parfois, mais moi, la paix m'a détruite. Enfin, parce que je n'étais pas faite pour la paix. J'étais préparée, en fait, pour le combat. Chez Goliarda, il y avait une sorte de contradiction parce qu'évidemment, l'élan vers l'art était extrêmement fort et il y avait quelque chose qui se combattait chez elle, qui était cet élan justement vers le combat, vers la de guerrière et l'élan vers l'art.
La grande vérité de l'œuvre de Sapienza, c'est ce moment de bascule où elle a 16 ans, elle rentre à l'école d'art dramatique à Rome. Elle brûle vraiment les planches. Visconti a commencé par le théâtre et il a énormément mis en scène de pièces avec Goliarda en premier rôle. Elle devient l'amante de Cito Maselli, qui était une figure du cinéma italien de l'époque, mais surtout la figure culture du Parti communiste italien. Il va y avoir une coupure qui, grosso modo, à mon avis, correspond à la mort de sa mère au début des années 50. Elle se pose la question existentielle du pourquoi je vis. Et elle décide que la vie de couple intellectuel, parce que bien sûr que l'appartement de Cito Maselli et d'elle à Rome dans les années 50, c'était un haut lieu de rencontre de toute l'intelligentsia culturelle italienne, que l'engagement dans le théâtre et tout ça, en fait, ça n'avait plus aucune valeur. Et que son chemin de vie à partir de ce moment-là, c'est celui qu'elle va tenir jusqu'à la fin de sa vie, qui est une compréhension de ce que c'est que son parcours.
Cito dormait à côté de moi, profondément, et ne se réveillait jamais quand j'allumais la lumière pour lire. Mais cette nuit-là, si. Tu écris ? Oui. Un poème ? Oui. Naturellement, il était raté et je le jetais par terre. Mais le matin, Cito le lut et fut enthousiaste. Cito me poussa comme tant d'années auparavant. Me prenant par la main, il me conduisit hors de ce cercle sourd que la folie de ma mère avait scellé autour de moi. Les répliques n'avaient plus de saveur dans ma bouche, comme de la nourriture sans sel. Les gestes de ces personnages sans contour ternissaient dans mes mains. Je cessais de jouer. Pourquoi devais-je continuer à faner, écrasé entre ces répliques et ces gestes poussiéreux et décolorés, comme des fleurs de papier? J'avais Cito. Il m'entraînait serré contre lui dans les rues de Rome, et sans me laisser jamais un instant, il m'enseignait les couleurs, les palais, les visages cadrés par la caméra, émouvant dans la lumière de ses réflecteurs, qui avaient des noms fabuleux, le 5000, le 10000, l'arc. Des histoires naquirent de lui et moi, enlacés dans les rues de Rome. Nous nous racontions des histoires d'enfants, de fleuristes, etc., qu'ensuite il mettait derrière la caméra, et qui, par un prodige extraordinaire, vivaient après cela de leur vie propre, sur ce carré de blanc opaque, qui tressaillait de vie dans l'obscurité de la petite salle.
Si, maman.
Goliarda Sapienza dans le film Les Égarés de Francesco Maselli.
Io vado a cercare un calmante.
Madame, calmez-vous maintenant. Étendez-vous. Et comment le pouvais-je? De l'obscurité de ce puissant souvenir, un flot riant d'Olympine m'emportait. Le voici qui monte les escaliers. Tu ris? Tu ris enfin? Oui, je me suis souvenue. Je me suis souvenue que j'écris et que tu es cinéaste. Nous nous embrassâmes, mais quand je le détachais de moi, de grosses larmes lui coulaient sur le visage. Quand avait-il pleuré ainsi? Où et pourquoi? C'était à l'enterrement de ma mère qu'il pleurait ainsi. Une paix sourde, comme alors, me fit prendre Cito par la main, et je l'emmenai à l'intérieur, et comme alors nous nous embrassâmes, serrés dans le lit de notre enlacement sans mémoire.
Le fil de midi, Goliarda Sapienza.
Il y a les premiers textes qui sont pour moi des textes de purge, écrits à cheval sur les années 50-60. Et donc c'est Lettre ouverte, c'est Le fil de midi.
Frédéric Martin.
Elle va revenir
éditeur.
À la fois sur son enfance. Lettre ouverte, c'est vraiment une mise à plat de ce qu'elle a vécu dans son enfance, avec beaucoup de colère, beaucoup de violence, beaucoup de règlements de compte. Et Le fil de midi, c'est un peu ce qui va suivre, c'est-à-dire la parenthèse amoureuse qu'elle va se donner avec un psychanalyste.
rencontre la psychanalyse.
Elle rencontre par hasard la psychanalyse après sa première tentative de suicide, quand en fait un psychanalyste vient l'arracher à l'hôpital, d'une certaine façon, pour la soustraire aux électrochocs. Commence alors une psychanalyse qui appartenait à un courant psychanalytique de l'époque, en fait, dont Ignazio Maiorre, qui était son psychanalyste, courant auquel il appartenait, ce qu'on appellerait maintenant vraiment une psychanalyse sauvage, et qui l'a conduite pour sauver Goliarda. Il estimait qu'elle était psychotique. La psychanalyse a eu pour Goliarda une importance non seulement médicale, enfin, elle a reconnu que c'est une importance médicale à la psychanalyse, mais aussi philosophique. Cela étant, elle a pris ses distances parce qu'elle a vu un dogmatisme dans la psychanalyse également. Et elle prenait ses distances avec tout dogmatisme, mais elle a toujours reconnu l'importance de la psychanalyse pour son œuvre, parce que c'est après la psychanalyse qu'elle s'est mise à écrire le premier livre d'autobiographie des contradictions, Lettera aperta, lettre ouverte, et qu'elle s'est détachée à la fois de son psychanalyste d'ailleurs et de Maselli, son premier compagnon.
Devant sa chair déchirée, je me demande aujourd'hui, avec crainte, ai-je été une bonne mère pour ma mère, quand elle régressait à 5-6 ans, presque démente, paralysée sur un fauteuil? Ai-je accompli mon devoir? J'ai cru que oui, mais quand elle est morte, le remords de ne pas avoir suffisamment pris soin d'elle m'a assaillie nuit et jour. Il a fallu 10 ans pour que je comprenne le sens de ce remords. J'avais été une bonne mère, mais je m'en voulais d'avoir, par mes soins, prolongé son agonie de 2 ou peut-être 3 ans. Ma façon de la soigner était une vengeance. Enfin, je l'avais en main, cette femme qui m'avait dominée toute ma vie. Je pouvais la laver, la tenir dans mes bras, la caresser, elle qui auparavant était si avare de tendresse. Je me vengeais de ce qu'elle m'eût trahi avec la folie. Je me vengeais en lui faisant voir comment on prend soin d'une fille, en le lui faisant voir à elle, qui, ne s'occupant que de mon esprit, m'avait pour le reste négligé de toutes les façons. C'était cela mon remords. Remords de la contrainte à garder en vie ce corps déjà mort. Et elle le savait.
Il y a une autonomie que certes Goliarda va prendre, on le voit, elle la prend par 3 matricides, dans l'art de la joie d'ailleurs, ce qui n'est pas rien. Il y a une autonomie, bien sûr, qu'elle doit prendre par rapport à son passé, à sa famille, à sa mère, qui était une personnalité assez écrasante, mais elle était extraordinairement attachée à elle, et il n'était pas question de renier cet attachement. Elle ne l'a jamais renié, d'ailleurs elle a vécu avec sa mère tout le temps de la vie de sa mère. Mais je pense qu'en revanche, elle a bien raison de trouver que ce dogmatisme psychanalytique de dire « il faut être libre de tout », c'est-à-dire des affects, est une aberration. Plus rien n'existe dans la vie si on est complètement libre des affects. C'est pas possible. Ça n'est pas possible.
C'est encore une Goliarda qui est très fragile, qui n'est pas pour moi complètement entrée en littérature, dans le sens où elle n'a pas encore la distance pour se regarder comme elle peut regarder un autre personnage ou d'autres personnages qui apparaissent dans ses romans, elle est vraiment dans la crise existentielle. Et après, deuxième période qui commence, c'est la décennie où elle écrit L'art de la joie, qui est un immense roman, et où là, la prise de distance avec elle est énorme. Quand on connaît sa vie, on voit à quel point son personnage principal, Modesta, est un alter ego d'elle. Elle y a re-infusé tout ce qu'elle a traversé elle-même dans sa vie, et en même temps, il y a une galerie de personnages qui est magnifique. C'est un moment de libération pour elle, où elle fait vivre la vie entière. Voilà. Elle commence l'écriture du roman en 67, et on estime plus ou moins qu'il est achevé en 76. Le roman est décomposé en 4 parties, et la 4e partie a été écrite dans le compagnonnage amoureux de sa vie avec Angelo.
Ils sont rencontrés en 1975. Il avait environ 30 ans.
Goliarda, in questo momento, viveva molto isolata.
Goliarda était très isolée à l'époque. Elle se consacrait complètement à la rédaction de L'Art de la Joie, complètement, mais tout en évitant la vie mondaine qui est peu appropriée au travail littéraire et notamment à la rédaction d'un roman aussi long que L'Art de la Joie. Elle retrouvait des amis le soir.
Una mattina, à Gaeta, sur la spiaggia.
Un matin à Gaeta, sur la plage, un très beau matin, et je voyais que Goliarda était extrêmement troublée. Et je la vois donc troublée, et je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, Goliarda ? Elle dit, je sens que je suis en train de tomber amoureuse de toi, et j'ai peur de ne pas pouvoir finir l'art de la joie.
Alors, io le dissi, Goliarda,
et je lui ai dit, écoute Goliarda, je te le promets solennellement, tu finiras l'art de la joie. Et c'est ainsi que ça se passa, le 21 octobre 1976, dans la maison de Gaeta. J'ai moi-même écrit sur le manuscrit la date et ces mots. Aujourd'hui, Goliarda a fini et Modesta commence. Elle commence à vivre. C'était une rencontre extraordinaire, la rencontre de Goliarda par l'art de la joie.
Nathalie Castagnier.
Mais les premiers mots, j'ai été frappée, happée par cet incipit qui est très mystérieux d'ailleurs. On voit une petite fille qui traîne un bout de bois. Où est-ce que ça va? Et très vite se développent des choses extrêmement fortes, violentes d'ailleurs, transgressives aussi, et déjà très poétiques également.
Est-ce que de commencer par traduire cette œuvre-là a été assez déterminant ou a infléchi un petit peu le regard que vous avez porté sur elle ?
Pour moi, c'est vraiment un grand livre, l'art de la joie. Et c'est vrai qu'après, on avait envie d'aller plus loin, de connaître d'autres choses de ce qu'a écrit cet auteur. Ce qu'elle a appelé autobiographie des contradictions, c'était son premier projet qui a été interrompu par l'élan irrépressible, je pense, de l'art de la joie et cette apparition du personnage de Modesta. Grand personnage.
C'est un siècle d'histoire de l'Italie et de la Sicile traversé par une femme hors du commun qui, au soir de sa vie, raconte comment elle réussit enfin à s'échapper de sa condition de paysanne pauvre, trouva la liberté par les livres, histoire d'un apprentissage permanent, celui d'une liberté intellectuelle, politique, sexuelle. C'est le roman de l'instant, d'un oui à la vie, au bonheur, et la sérénité comme unique volonté. Modesta est un des plus beaux personnages qu'il nous ait été donné de rencontrer en littérature. Inoubliable Modesta. Voilà ce que pouvaient lire donc les visiteurs de votre librairie au moment de la parution de l'art de la joie.
C'était une autre librairie dans laquelle je travaillais à l'époque.
Ce que je voulais vous demander, oui, à titre plus personnel, Florence Laurin, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour vous le jour où vous avez ouvert pour la première fois l'art de la joie ?
C'est le style, immédiatement, qui m'a happée. En plus, c'était quand même très très noir. Et puis ça commence avec un incendie. La petite Modesta, elle est la seule à s'en sortir. C'est pas très bien si c'est elle qui a fichu le feu. Elle avait un père mais qui était immonde, mais ça on le sait en une ligne, deux lignes, pas plus. Et elle va être recueillie dans un couvent. Donc là, l'histoire commence véritablement. Même si son premier apprentissage a été quand même assez noir, elle commence à apprendre autre chose. Déjà, elle va vivre dans la décence. Elle va rencontrer pas mal de personnes qui vont lui apprendre énormément de choses. Qu'est-ce que je vois, moi ? Je vois que cette femme, quoi qu'il se passe, elle s'en sort parce qu'elle ne se laisse jamais abattre. Et surtout, elle est avide. Elle va se forger sa propre philosophie de la vie et qui ne ressemble à rien. En fait, c'est uniquement en fonction de son vécu qu'elle se forge son précepte de vie.
J'ai l'impression que cette héroïne, Modesta, est à la fois une anti-Goliarda, par son côté très machiavélique, très calculateur. Et en même temps, c'est un peu son miroir dans cette quête de liberté, son anticonformisme, la place qu'elle laisse au hasard aussi dans sa vie. Donc c'est une héroïne en ça aussi paradoxale au regard de son auteur.
Personnellement, je le pense, mais ils n'ont absolument pas la même histoire. Modesta est machiavélique au début du livre, essentiellement. C'est-à-dire quand il faut qu'elle prennent sa place. Et Goliarda n'a pas eu du tout à prendre de la même façon sa place. Goliarda devait se libérer de ce qui était inhibant dans son éducation. Et Modesta n'a pas eu d'éducation. Il y a quelque chose de quasiment sadien dans la première partie de l'art de la joie, où on n'hésite pas devant le meurtre, on n'hésite devant rien. Et c'est une fille qui vient de rien et qui donc estime que absolument tout lui est permis pour obtenir la liberté qu'elle veut obtenir. D'où ce machiavélisme qui, en effet, était complètement absent de chez Goliarda, qui dit elle-même, notamment dans ses carnets, qu'elle est incapable d'écraser qui que ce soit, par exemple. Et d'ailleurs, elle s'en veut, d'une certaine manière, elle s'en veut de ne pas avoir cette force. Et cette force qu'elle regrettait de ne pas avoir, qui est même une force potentiellement négative, elle l'a donnée à Modesta pour en faire un personnage qu'elle estimait sans doute plus positif qu'elle-même.
J'écoutais la voix de Mère Léonora qui parlait, mais pas avec sa voix d'autrefois. Elle s'était un peu décolorée, cette voix, comme usée. Cette voix étrangère se tut enfin et elle sortit. Je la haïssais désormais. À l'improviste, cette émotion de haine, qu'elle disait être un péché, me cingla d'une joie si forte que je dus serrer les poings et les lèvres pour ne pas me mettre à chanter et à courir. Dès que je me sentis plus calme, je dis timidement à voix basse « Je la hais », pour voir si les faits se répétaient ou si la foudre s'abattait sur ma tête. Il pleuvait dehors. Ma propre voix m'atteignit comme un vent frais qui me libérait la tête et la poitrine de la crainte et de la mélancolie. Comment se pouvait-il que ce mot interdit me donnât tant d'énergie ? J'y penserai plus tard. Maintenant, je n'avais plus qu'à le répéter à voix haute, pour qu'il ne m'échappe plus. « Je la hais, je la hais, je la hais » criai-je, après m'être assuré que la porte était bien fermée. La cuirasse de mélancolie se détachait par morceaux de mon corps. Mon thorax s'élargissait, secoué par l'énergie de ce sentiment. Je ne respire plus, enfermé dans cette blouse. M'arrachant blouse et chemise, mes mains trouvèrent ces bandes serrées pour qu'on ne voie pas les seins, qui jusqu'à ce moment avaient été pour moi comme une seconde peau. Une peau de douce apparence qui me liait avec sa blancheur assurante. Je pris des ciseaux et je la coupai en morceaux. Il fallait que je respire. Et enfin nue, je retrouve ma chair. Mes seins délivrés jaillissent sous mes paumes et je me caresse là, par terre. Et je jouis des caresses que ce mot magique avait libéré.
Ce livre-là, aujourd'hui, il est vraiment considéré comme un chef-d'œuvre. Elle n'avait pas écrit un petit roman sympathique. C'est maintenant, dans toutes les histoires de la littérature italienne, il y a un chapitre sur l'art de la joie. Et quand on déploie l'énergie émotionnelle nécessaire à l'écriture d'un tel roman, et qu'on ne reçoit que des refus après coup, c'est extrêmement violent. Et après l'écriture sur 10 ans de ce roman, arrive la crise, parce qu'elle pensait en être sortie avec ce roman, et en fait le refus des éditeurs va la replonger dedans. Ça va aller jusqu'à des tentatives de suicide, des dépressions, et un séjour en prison même. Elle va voler des bijoux, enfin elle fait tout pour rentrer presque dans une sorte de déchéance sociale qu'on lui a de toute manière attribuée avec le refus éditorial de publier L'Art de la Joie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Maria Giudice est morte, donc sa mère, dans la chambre funéraire, vous avez eu quand même 2 présidents de la République italienne qui sont venus. C'était une figure majeure. Goliarda, pendant très longtemps et peut-être même jusqu'à sa mort, avant d'être quelqu'un, elle était la fille d'eux. Et je pense que le séjour en prison, c'était principalement ça, l'enjeu. C'était d'en finir une bonne fois pour toutes avec un statut social. Goliarda était une femme magnifique en plus même, enfin, c'était une Sicilienne toute petite, mais avec une énergie dans les yeux, il y a des photos, elle est magnétique cette femme. Donc il faut imaginer effectivement cette femme qui a pour parents ces figures historiques du socialisme italien, qui a eu pour compagnon cette figure historique du Parti communiste italien, qui était très intelligente, qui était aimée par Visconti. On a une photo de Visconti où il la dédicace à son ami Goliarda. Bref, cette femme qui avait coché toutes les cases pour être respectable, en a eu marre, et elle a dit, je vais faire quelque chose qui va rendre insupportable ce que je suis. Angelo, je crois, parle de coming out social. Elle a révélé sa vraie nature avec ce vol, et c'était un truc tout con. En fait, elle avait une vieille amie bourgeoise romaine, à qui elle a volé ses bijoux, et elle a tout fait pour être repérée. C'est qu'après, elle les a revendus avec des faux papiers, ou en deux, trois coups d'enquête, on remontait jusqu'à elle.
Des papiers au nom d'une Modesta, d'ailleurs.
Et là, on voit son sens de l'humour. Enfin, moi, je... Évidemment, comme elle était la fille d'eux, la compagne d'eux, etc., On a dit, bon, mais ça va, on va pas. Et elle a dit, non, non, je vais en prison, j'ai volé.
Aller en prison était d'une certaine manière retrouver quelque chose que sa mère avait fait d'innombrables fois, donc retrouver sa mère, en quelque sorte. Retourner à sa mère, vers sa mère. La prison a été une sorte de renaissance pour elle, en réalité, parce qu'elle a retrouvé, au milieu des exclus qui pour elle étaient les meilleurs, en fait, son quartier de Catane. Elle a retrouvé une vie, une agora, une place où s'exprimait quelque chose de plus vrai que dans le milieu qu'elle quittait, finalement. Avec cet acte. Elle était un peu trop devenue une dame élégante.
Ribibbia, c'est la plus grande prison de femmes en Italie, c'est dans le nord de Rome, et elle en a fait une université de vie, c'est-à-dire qu'elle rentre très clairement dans cette prison en situation de dépression aggravée. On est dans l'immédiat après-écriture de l'art de la joie, on est dans un retour qu'elle a fait en transsibérien jusqu'en Chine, avec la déception de l'expérience communiste qu'elle découvre à ce moment-là. Elle est dans la désillusion aussi d'une certaine société italienne. On rentre dans les années de plomb avec ce qu'il y a de plus violent et l'échec d'une pensée, on va dire, utopiste. Et tout d'un coup, elle arrive dans ce caravansérail assez invraisemblable où elle va être à la fois mélangée à des prisonnières de droit commun qui sont pour certaines des dealers, pour d'autres des prostituées, pour d'autres des meurtrières. Il y a un super portrait de mère un peu veuve noire qui a assassiné l'amant de sa jeune fille pour avoir empris sur elle. Enfin voilà, il y a des portraits de droit commun assez étonnants. Et à côté de ça, il y a des prisonniers politiques, des jeunes révolutionnaires des années de plomb qui sont là parce qu'elles veulent faire des attentats. Et vous avez cette Goliarda qui va devenir une sorte de mascotte pour tout le monde parce qu'elle a facilement 30 balais de plus que la moyenne d'âge des prisonnières. Elle arrive quand même avec son élégance romaine. Elle a rien avec elle en même temps. Elle a même pas une brosse à dents. Et très très vite, en fait, ça va tourner à la bataille rangée entre les droits communs et les politiques parce que chacune veut l'avoir dans leur cellule. Et face à cette vitalité et cette vérité des personnes qu'elle rencontre là, elle va se reconnecter avec la vie. Et en fait, ça va être sa meilleure thérapie. Je pense que la décennie des années 80 où elle va écrire ses textes de liberté, jusqu'à Rendez-vous à Positano, qui va boucler quelque chose aussi sur son rapport aux femmes. Elle le doit, ces quelques jours, je ne dis pas le nombre, parce que quand on lit le roman, on a l'impression qu'elle a passé des années en prison. Quand on lit attentivement et qu'on fait le décompte des jours, on dit « Ah ouais, on peut vivre autant de choses en quelques jours ». C'est invraisemblable, la dilatation du temps dans ce texte. Et ça a été la plus belle chose qu'elle a vécue. Elle est restée en relation avec certaines de ces femmes pendant longtemps. Et sa générosité, elle l'a retrouvée là-dedans. Voilà. Cette université de Ribibbia, cette université de vie, ça a été une chance pour elle.
Posso aggiungere soltanto che dentro il carcere femminile lei trovava
Ce que je peux ajouter, c'est que la prison lui permettait de rencontrer, de retrouver toutes les figures féminines qu'elle avait rencontrées depuis l'enfance et jusqu'aux militantes. À côté
et quel était plus globalement son rapport aux femmes ?
Elle avait également un engagement avec les femmes, un engagement féministe, ce qu'on pourrait dire féministe. Les femmes comptaient beaucoup pour Goliarda. C'était un bonheur et une douleur dans sa vie. En effet, il y avait là quelque chose d'extrêmement important pour elle.
Je me suis depuis si peu de temps échappée de l'immense colonie pénitentiaire qui sévit dehors. Bagne social découpé en sections rigides de profession, de classe, d'âge. Que cette façon de pouvoir brusquement être ensemble, citoyenne de tous milieux sociaux, culture, nationalité, ne peut que m'apparaître comme une liberté folle, insoupçonnée. Une autre chose que j'avais devinée dès les premières heures de prison et qui maintenant trouve confirmation devant cette petite foule, c'est que même la cellule de l'état civil, qui sévit dehors, plus dure que toutes les cellules d'isolement, n'existe pas ici.
Frédéric Martin, cette œuvre, l'Université de Ribibbia, contrairement aux autres, va être éditée plutôt bien reçue de son vivant.
Alors elle va être très bien reçue, mais en même temps très mal reçue. Les Italiens ont fait du Paris Match. En gros, la grande bourgeoise intellectuelle qui finit en prison, c'était hyper croustillant pour les médias. Les lecteurs ont suivi le jeu et ont lu ce texte pour savoir c'est quoi quand on est une bourgeoise d'être en prison. Je pense qu'ils ont été un peu déçus parce qu'ils ne s'attendaient pas à un texte pareil. Et puis surtout, ça n'a rien changé. C'est que même l'éditeur qui avait publié ce texte, à un moment, Goliarda a forcément dit, voilà, j'ai écrit ça aussi. Et elle a remis sur la table l'art de la joie. Et la réponse est restée la même. Voilà, on veut bien du spectaculaire, même du folklore avec votre séjour en prison. Par contre, ce roman est complètement difforme, métastasié presque, tellement il est gros et hérétique dans ce qu'il dit. On n'en veut pas.
Est-ce qu'elle avait le sentiment de subir une certaine forme de censure ?
Absolument, si.
Absolument, bien sûr. Et ça alimentait un petit peu de paranoïa qu'elle conservait des années du fascisme. Elle se considérait un peu comme persécutée. Les refus, bien sûr, accentuaient cette impression-là.
Modesta
exprime la libido, le désir de libération dans tous ses aspects. En plus, quand Goliarda termine le roman, et ce sont les années de plomb. Modesta peut être vue comme une terroriste. Elle souffrait évidemment beaucoup des refus, comme tout le monde en souffre. Mais elle savait, elle faisait en sorte de sauver la journée, le temps de la journée, la beauté de la journée, qui était pour elle l'unique mesure du temps, en fait. Elle avait le génie de savoir organiser la journée comme un petit chef-d'œuvre. Elle savait aborder la journée avec sérénité, et pas seulement aborder, donner un caractère de sérénité et d'harmonie aux journées, et dans tout, même les petites choses, enfin la cuisine. Elle abordait aussi ce temps donc restreint comme une combattante.
De ce que j'ai compris là aussi avec les échanges d'Angelo, sa vie c'est d'aller nager, c'est prendre un bon verre avec ses amis du village. Il vivait dans un village de pêcheurs qui s'appelait Gaïta. Ça semble un peu idyllique. On voit un couple, déjà très atypique forcément, qui a déjà vécu beaucoup de choses. Et leur vie, c'était les poissons du marché et quelques légumes, quelques fruits. Ils vivaient comme des oiseaux. Et je pense que financièrement, ils ne pouvaient pas vivre autre chose. Ce n'était pas qu'une assaise. Mais ils ne la vivaient pas comme une contrainte parce que justement, ils avaient appris à abandonner plein de choses.
Elle savait que l'une des plus grandes causes de malheur est l'anxiété. Et je veux rappeler à ce propos qu'une fois elle me dit cette phrase: si tu abandonnes l'angoisse du lendemain, le lendemain revient ponctuellement avec des guirlandes de fleurs, du vin et des cerises.
Beaucoup de gens aujourd'hui continuent à placer l'art de la joie au plus haut dans son œuvre. Moi, j'ai tendance à croire que les romans et les textes de la troisième période, c'est-à-dire essentiellement la décennie des années 80, est la plus belle parce qu'elle a digéré les deux premières périodes, elle a digéré la colère, elle a digéré l'euphorie de l'art de la joie, et elle propose encore autre chose qui est pour moi la sagesse, en fait, comme l'université de Rebibia, qui raconte donc son séjour en prison, où de l'immédiat après, elle a eu une relation amoureuse dont elle parle dans un texte avec l'une de ses détenues. Rendez-vous à Positano, qui est un texte magnifique, ou le texte donc, de moi, Jean Gabin, qui fait boucle, parce que c'est un des derniers livres qu'elle a écrit, et en fait, il reprend exactement le même terreau, le même sujet, que le tout premier, que Lettre ouverte. Et quand vous faites le télescopage des deux, il y a 40 ans de vie quasiment qui sépare l'écriture des deux textes, et c'est bouleversant de mesurer le chemin qu'elle a parcouru. Elle est passée de la colère à la fantaisie. Et au sens étymologique du terme, c'est-à-dire à la vision. Il y a beaucoup d'humour, de joie dans ce texte, mais il y a aussi une vision de la vie qui est... C'est quasiment un testament philosophique, moi, Jean Gabin. C'est la femme qui aurait pu être brisée par tous les accidents de parcours, par toutes les injustices, parce que la non-publication de l'art de la joie est une vraie injustice. Et elle, non seulement ça ne l'a pas brisée, mais finalement, ça lui a permis d'aller encore plus loin.
Florence Laura, est-ce qu'il y a d'autres livres de Goliarda Sapienza qui vous aient touché par la suite et de quelle manière ?
C'est Rendez-vous à Positano. Elle raconte l'histoire d'une amitié entre deux femmes et elle nous fait tout sentir. Tous les personnages sont incarnés, on les voit. Quand elle dévale les escaliers, on sent la pierre, on sent la chaleur. Quand il y a un orage qui éclate, on se sent trempé comme elle qui se retrouve sous l'orage. On est dans l'instant. C'est là où tout se passe, c'est là où il faut être vigilant. Il y a plein de possibilités de bonheur qui nous échappent parce qu'on n'y fait pas attention. Et ça, c'est ce qu'elle a mis en avant dans toute son œuvre. Et Goliarda, Modesta, c'était un vrai phénix. Donc, quelque part, on est dans la vie, la mort, la renaissance, l'instant.
Si je meurs de la surprise de quelques nouveaux visages rencontres cachés derrière un arbre en attente, si je meurs foudroyé par l'éclair de la joie, étouffé par une étreinte trop forte, noyé dans une tempête d'émotions, entraînant vers une mer qui invisible attend derrière la nuit, si je meurs vidé de mon sang par les blessures ouvertes d'un amour perdu que rien n'aura pu refermer, si je meurs poignardé par la lame effilée d'un regard cruel, je vous demande seulement ceci. Ne cherchez pas à vous expliquer ma mort. Ne la disséquez pas. Ne la cataloguez pas. Pour votre tranquillité. Par peur de votre propre mort. Mais tout au plus pensez. Ne le dites pas fort, les mots trahissent. Ne le dites pas fort. Mais pensez en vous-même. Elle est morte. Parce qu'elle a vécu.
Le fil de midi, Goliarda Sapienza. Elle était seule à Gaeta hein, quand elle est morte, en 96 donc. Et oui, à l'époque, je pense que vraiment il n'y a pas eu beaucoup d'écho. Même si des amis et amis, eux, des femmes avec qui elle avait milité ou qu'elle avait rencontré dans une optique féministe, enfin des gens ne l'ont pas oublié, les gens pour qui elle avait été importante, mais beaucoup de ses amis étaient morts aussi. Quelqu'un comme Visconti était mort bien avant elle, et après, Angelo a porté à bout de bras l'art de la joie pour que ce qu'il considérait comme leur enfant ne soit pas mort-né, finalement. Si il n'y avait pas eu cette publication et le succès que le livre a eu en France, en Italie, Goliarda ne serait toujours pas connu, je pense. Bon, c'est une histoire assez extraordinaire, pour moi aussi. Il y a eu cette traduction qui a été... capitale pour la reconnaissance posthume de Goliarda, que j'appelle Goliarda parce que elle m'est tellement familière.
Il a fallu attendre 2005 pour que l'art de la joie soit édité en France. Frédéric Martin, vous êtes le directeur des éditions du Tripode et avez repris l'édition de l'œuvre complète de Goliarda Sapienza, mais dans quel contexte, vous avez été témoin de cette parution.
L'histoire éditoriale de l'art de la joie est tellement étonnante que je pense qu'aujourd'hui encore, elle est quasiment à la base de ma manière de travailler. Donc ce livre, refusé pendant 20 ans par les éditeurs italiens, publié chez un tout petit éditeur italien, finalement après la mort de Goliarda, avec une fabrication qui est payée par le mari, donc vraiment quelque chose de très modeste, finit par atterrir un peu miraculeusement sur le bureau d'une éditrice allemande qui s'appelle Waltraud Schwarze, et qui donc un jour me prévient qu'elle est tombée sur un texte un peu étrange. Elle aurait pu me dire, voilà Frédéric, il y a un texte qui est génial, bon, tous les éditeurs italiens l'ont refusé, tu pourras pas faire la promotion du livre avec l'auteur parce qu'elle est morte. En plus, il est très long, donc financièrement, ça sera un coût important en termes de coût de traduction. Je travaillais aux éditions Vietnami à l'époque. On sollicite une lectrice de l'italien qui s'appelait Nathalie Castagnier. Et puis là, on rentre en voyage, vraiment.
Je l'ai lu au début janvier 2004 et j'ai été complètement émerveillée et survoltée d'ailleurs par la lecture. Enfin, très frappée. Mais j'ai trouvé extraordinaire le début du livre. Et je me suis demandé si ça allait tenir 650 pages. Et j'ai continué, j'ai vu qu'il y avait sans arrêt, même s'il y a certaines faiblesses et longueurs, il y avait sans arrêt des choses extraordinairement intéressantes et des choses absolument géniales. Et j'ai donc concocté une note de lecture la plus convaincante possible, parce que pour moi, il fallait absolument traduire et faire connaître ce livre. En plus de ça, Angelo Pellegrino donc, avait écrit une préface très très belle, que je me suis empressée de traduire aussi pour l'envoyer à la maison d'édition, où il parlait de toute l'histoire de Goliarda, la manière dont elle s'est isolée, dont elle s'est réduite à la misère quasiment, en se consacrant entièrement à ce livre, la façon dont elle écrivait, complètement immergée dans ce qu'elle faisait, on sentait que c'était pas de la fabrication. J'envoie ça par internet, et le lendemain, je crois, on m'a appelé de la maison d'édition en disant « on le prend ».
Le texte est enfin traduit, et là c'est un vrai problème quand même. Parce que c'est un chef-d'œuvre, on en est sûrs tous les deux. Et on se dit, mais comment on fait? On n'avait pas le droit de tuer une deuxième fois Sapienza, en fait. Et dans cette tension-là, il y a eu l'idée, mais un peu folle, de dire, ben, en fait, on va l'envoyer au libraire. À la photocopieuse, c'était une ramette entière de papier. Donc dès que j'avais un libraire qui me disait, oui, je veux bien lire, 3 jours après, il recevait par la poste un carton, enfin une ramette de papier. Et donc il me rappelait en me disant « Fred, là tu m'avais pas dit quand même la pagination. » « Mais non, mais lis, tu verras. » Et en fait, ça marchait. Les libraires ont eu la générosité de lire, à l'aveugle. Et finalement, un jour d'août, je reçois un coup de fil de Anne Crignon, qui est une journaliste de l'Obs, et qui, chaque année, faisait l'interview des libraires. Symboliquement, c'était le papier qui marquait le début de la rentrée littéraire. Ils ont lu ça cet été, vous les lirez cet automne. Et elle m'appelle en me disant « Frédéric, là, qu'est-ce qui se passe ? J'appelle à Saint-Malo, j'appelle à Paris, j'appelle à Palavas-les-Flots. » À chaque fois, on me parle d'un truc qui s'appelle l'art de la joie. Et j'ai pleuré, parce que je savais que c'était gagné.
Le jour où le livre est paru, j'avais fait ma vitrine très tôt le matin. Et en fait, c'est quand je faisais ma table, je m'apercevais que les gens entraient dans la librairie, prenaient le livre, ne posaient aucune question, et allaient directement payer en caisse. Et ils repartaient. Je me suis aperçue très vite que moi, je m'en étais emparée. D'autres libraires s'en étaient emparés. Tous les jours, je recommandais des piles. Je me disais, mais je vais jamais m'en sortir. J'ai réussi à ne jamais tomber en rupture de stock. Et ça a été crescendo, ça a fait boule de neige. Hein.
Et ça a été, en l'espace de quelques jours, la révélation littéraire de la rentrée. À tel point que tous les correspondants de la presse italienne à Paris ont fait des dépêches, je les ai lues, hein, qui disaient, écoutez, bon, il paraît qu'on a un très très grand écrivain italien. Bon, on ne la connaît pas, elle s'appelle Goliarda Sapienza, n'essayez pas d'acheter son livre, vous ne le trouverez pas. Mais il est traduit en France et voilà ce que disent les Français sur eux. Et ils ont fait un florilège avec des citations du Monde, de l'Obs, de Libé, de Télérama, enfin toute la presse en a parlé. Et les mêmes éditeurs qui, 20 ans plus tôt, avaient dit ça valait rien, ont fait des enchères folles pour avoir le droit de publier le livre.
Et que vous évoque cette reconnaissance à titre posthume de l'œuvre de Goliarda Sapienza?
Pour commencer, une grande satisfaction parce que c'est une bataille que nous avons menée ensemble qui est gagnée. Et de l'autre, évidemment, une grande amertume pour cette reconnaissance tardive que Goliarda ne peut pas voir.
Pythagore
disait qu'il y a des gens qui sont venus au monde pour faire la guerre, faire du commerce, et d'autres pour assister au monde, enfin à ce qui se passe dans le monde, à ce qu'est le monde. Et je ne suis pas un homme d'action. En revanche, je suis un homme d'intellection. J'ai trouvé en Goliarda aussi une œuvre que je pouvais contempler et sauver. Angelo Pellegrino est un nom assez amusant en italien, ange pèlerin. Et il y a une idée de salut là-dedans, mais la plus belle chose que j'ai faite de ma vie, c'est celle de sauver l'art de la joie.
Ce qu'elle m'a apporté, mais quelque part, c'est la foi. La foi en la vie, la foi dans les autres. Et surtout, elle est restée tout le temps dans ma tête. C'est-à-dire que quand la vie est compliquée, je pense à elle. C'est comme un ressort. Et c'est comme ça, depuis cette lecture, qui a profondément bouleversé ma vie. Moi, ça m'a permis, par la suite, de prendre mon envol, de quitter la librairie où je me sentais parfaitement bien, pour créer ma propre librairie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelée l'art de la joie. Parce que c'est vraiment pas évident de se lancer dans l'ouverture d'une librairie. Et bien finalement, rien qu'à penser qu'elle allait s'appeler l'art de la joie, j'étais debout.
Quand elle s'accomplit, la littérature n'est plus seulement la littérature. C'est vraiment quelque chose qui dépasse le fait que soit écrit le papier. C'est quelque chose en effet d'existentiel et je crois que ça l'est très fortement chez Goliarda Sapienza, justement.
C'est même parfois explicité dans le portrait qu'elle fait de femmes qu'elle a aimées. Elle laisse entendre qu'elle se sent presque une mission de leur donner vie au travers de son écriture.
Oui, absolument. Quand elle finit les certitudes du doute, c'est Roberta, mon enfant. L'écrit devient vital, devient conception, mise au monde absolument vitale. Et je suis absolument convaincue que c'était ça pour elle. Là aussi, Angelo le disait, mais dans ce qu'elle écrivait, elle mettait sa chair et son sang.
C'est cela que Roberta voulait de moi ? Renaître littérairement, personnage vivant dans un livre ? Un désarroi nouveau me prend. Parviendrai-je, moi, privée par la marâtre nature de la joie d'infanter ? Parviendrai-je à façonner à l'intérieur de moi ce petit cocon à forme de chair pour en faire une petite fille, sinon belle et bonne, du moins pas difforme, ou ne manquant pas de quelques membres. Voilà la terreur ancestrale que toutes les femmes éprouvent à chaque fois qu'elles sentent grandir un être en elles. Serais-je capable de surmonter cette terreur et, prenant papier et stylo, de me mettre à ce dur travail d'accouchement charnel et mental qu'il me faudra pendant des mois et des mois affronter chaque matin et peut-être à chaque heure? Je ne sais pas, mais je n'ai plus qu'à me jeter dans le vide en retournant à elle, la recherchant, me rendant enceinte de son image et la laissant mûrir en moi, la nourrissant constamment jusqu'à ce que, enfin modelée, elle puisse passer des ténèbres à la lumière. Roberta, mon enfant.
La vraie jouissance quand on lit Sapienza, c'est de parcourir tout l'archipel littéraire, comme moi je l'appelle. Chaque texte peut se lire séparément et on peut avoir effectivement l'île principale volcanique qui est l'art de la joie, et sans doute c'est la capitale de cet archipel, mais le territoire c'est l'archipel, c'est-à-dire que si on veut comprendre ce territoire, il faut parcourir tous les textes. Et ça a été long, tellement les gens s'étaient attachés au roman, de les faire sortir de la déception du « bah oui, les autres textes, c'est pas un art de la joie bis ». Sapienza, c'était pas l'auteur qui avait trouvé une bonne recette et qui s'est amusé toute sa vie à refaire le même roman pour le plaisir des lecteurs. D'abord parce que cette recette n'avait pas du tout marché, et puis parce que c'était pas son projet. Elle, son projet, c'était « qui suis-je ?». Voilà. Quand vous regardez ses derniers textes, je pense qu'elle l'a porté jusqu'au plus haut degré de beauté ou de sagesse, c'est-à-dire « je suis rien ». Mais pour arriver à être rien, bah, il faut abandonner beaucoup de choses. Elle s'est beaucoup désquamée, elle a abandonné beaucoup de peaux de son existence. La première peau qu'elle a dû abandonner, je pense que c'est la peau politique. Et ses premiers textes, c'est ça. Il fallait qu'elle sorte de l'enjeu, de vouloir convaincre, de la radicalité du discours. C'est aussi pour ça qu'elle a arrêté le théâtre, c'est que pour elle, c'était un art du mensonge. La vraie vérité, c'est l'incertitude. C'est les incertitudes du doute, c'est l'autobiographie des contradictions. Il y a chez elle tout un jeu dialectique entre fragilité et certitude. C'est-à-dire que la vraie puissance, elle est presque dans l'impuissance. Quand on devient vraiment très fort, eh ben on n'a quasiment plus aucun pouvoir. Et surtout, on n'a plus aucun besoin de pouvoir.
Qu'est-ce qui n'a pas encore été traduit ?
Alors, il reste déjà les carnets, donc ils sont presque en voie de publication. Il y a ce que je commence en gros à traduire, qui sont ses poèmes. La première chose qu'elle a écrite, juste après la mort de sa mère, il y a des pièces de théâtre, une correspondance, et puis encore un livre de nouvelles, qui est Destino Coatto, dont je ne sais pas du tout comment on va le traduire. Ce qui est psychanalytiquement appelé en français névrose de destinée, et je crois que c'est tout. Ce n'est pas absolument rien, d'ailleurs. Mais les carnets, c'est un gros morceau aussi. C'est quelque chose d'assez important en volume. Et on suit Goliarda dans les dernières années de sa vie. Et ça, on n'en avait eu aucun écho. C'est un peu un laboratoire. On voit toutes sortes de choses, des moments poétiques, des moments où elle prend des notes comme ça, où elle songe à des choses qu'elle va écrire, peut-être. Il y a d'ailleurs des moments où ça déraille un peu, mais je crois qu'il faut aussi le respecter. On voit qu'elle ne va pas bien. Et puis, où elle reprend le dessus. Enfin, pour moi, c'est une chose très importante.
C'est une femme qui n'a jamais triché. Et ça, les carnets le confirment. Quand vous lisez ce qu'elle vit intimement en dehors de l'écriture, bah, vous voyez l'incertitude, vous voyez la souffrance, vous voyez la solitude, vous voyez l'amour qu'elle a pour Angelo. Enfin, vous voyez des choses qui sont beaucoup plus fragiles. En fait, pour faire un mouvement, c'est presque comme avec votre corps, pour avancer, c'est un déséquilibre permanent. Quand vous marchez, vous ne cessez de tomber, en fait. Et toute l'écriture de Goliarda, c'est une chute permanente qu'elle maîtrise.
Merci à Nathalie Castagnier, Frédéric Martin, Florence Laurin et Angelo Pellegrino. Lecture extraite des œuvres de Goliarda Sapienza, parue aux éditions Le Tripode. Une vie, une œuvre, Goliarda Sapienza, La Madone indocile. Un documentaire de Julie Navarre. Attachée d'émission Claire Poinsignon, coordination Irène Omelianenko.
Prise de son, Alexandre Dang. Mixage, Alain Joubert. Réalisation, Jean-Philippe Navarre.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, rendez-vous avec Étienne Klein pour la conversation scientifique. Samedi prochain, Une vie, une œuvre sera consacrée à l'aventurière et journaliste engagée Anne-Marie Schwarzenbach.